Le procès Pétain. Extrait choisi par Dominique Missica. 13e émission.
Vendredi 10 août, 17e audience. Suite et fin des déclarations des témoins de la défense.
Votre dernier témoin, monsieur le bâtonnier ?
Oui, monsieur le président. Le général Delannurien, aveugle de guerre, directeur de l'école supérieure de guerre.
L'homme qui s'avance, sa canne blanche à la main, fait une forte impression. Il est guidé par un huissier jusqu'à la chaise des témoins. Il va rappeler avec chaleur tous les services que le maréchal a rendus au pays, disant son désarroi en novembre 1942, ses hésitations, puis sa foi en la victoire alliée. Il finit par un vibrant appel.
Si par malheur on dégradait cet homme, si on lui arrachait ses boutons, ses galons, ses étoiles, une fois joué l'infâme comédie, quand il passerait dans les rangs courbés par l'âge, pâli sous l'affront, mais la tête haute, loin d'être diminué, il en serait grandi. Et le soir, nous penserions tous que c'est nous, nous seuls, et la France avec nous, que nous aurions saisi. Prenons garde, on ne touche pas impunément à la vie et à l'honneur d'un homme, tout se paie. Prenons garde qu'un jour nous n'ayons fait qu'aggraver encore les maux de la patrie. Jurez parisiens, fins et compréhensifs, hommes de France, de bon sens et de cœur, vous qui avez souffert et dont on veut exploiter la souffrance, comme si cette souffrance d'avoir commis un crime allait diminuer. Prenez garde qu'un jour, qui n'est pas loin peut-être, le sang et le prétendu déshonneur de cet homme par notre faute et de nos propres mains nous retombe sur la France tout entière, sur nous-mêmes, sur nos enfants.
Pas de manifestation ! C'est un scandale !
Un juré se lève et demande la parole.
Non, non, je vous en prie.
Si, je vous en prie. J'y tiens. Avec tout le respect que m'inspire le général par ses blessures, je lui demanderai ce qu'il pense du maquis, ce qu'il pense de la répression contre les maquisards. Quels sont ses sentiments ?
Je sais très bien de quoi veut parler monsieur le juré. Il s'agit de lettres que j'ai écrites au maréchal. Je pense que c'est cela. Eh bien, je réponds tout de suite que je n'ai jamais rien fait contre la résistance. Bien au contraire. Mais j'ai toujours condamné les actes de terrorisme et de droit commun qui ont été commis dans tout mon entourage, et je pourrais en citer beaucoup. Voilà tout ce que j'ai à me reprocher.
Permettez, je voudrais citer deux phrases de cette lettre. Vous écriviez au maréchal, deux catégories d'événements sont à envisager. L'action contre le terrorisme, entamée tardivement par suite d'hésitations du gouvernement, mais qui a pris aujourd'hui un tel développement que l'effet bienfaisant a été immédiat. Ceci non seulement dans la répression elle-même, mais dans la consolidation de votre situation personnelle en tant que chef de l'État. Il faut que l'on sache bien que c'est le chef de l'État lui-même et non le chef du gouvernement qui a conçu, voulu et précipité la dite répression. Et comme deuxième événement, vous avez parlé de la propagande et de l'information. Je passe parce que votre lettre est très longue. Vous avez beaucoup parlé de Philippe Henriot et vous avez conclu par ces mots. Il est de toute nécessité que ces deux actions bienfaisantes, celle de Darnand et celle d'Henriot, se poursuivent jusqu'aux événements finaux. C'est pourquoi répression et information doivent être votre preuve personnelle. Vous ne reniez pas, je pense, monsieur, ce que vous avez écrit le 15 mars 1944.
Mais je ne renie rien du tout. Je reprends simplement comme conclusion la phrase du maréchal.
Nous pouvons tout de même entendre sans émotion et surtout sans tumulte les déclarations que va faire le général. J'écoute.
Je résumerai toute ma défense, si défense il y a, en disant ce que le maréchal a répondu il y a à peu près un mois à la commission d'instruction. Je n'ai jamais combattu la résistance, j'ai toujours combattu le terrorisme. J'ai été témoin d'énormément de ces crimes de droit commun qui ont peut-être été commis au nom de la patrie, mais où la patrie n'avait absolument rien à voir. Lorsqu'on assassine quelqu'un au coin d'une route, ce n'est pas pour la patrie. Je l'ai toujours combattu. Et lorsque j'ai parlé justement d'information et de répression, c'est uniquement dans ce sens et pas dans un autre. Je n'ai plus rien à ajouter.
Subitement, le maréchal, très pâle, se lève et demande la parole.
Je prends la parole pour une fois pour dire que je ne suis pour rien dans la présence du général de Lannurien ici. Je ne savais même pas qu'il devait se présenter devant la cour. Tout ceci s'est passé en dehors de moi.
L'effet de la déclaration de l'accusé est désastreux. Le public est stupéfait. Cette ingratitude est catastrophique. Pour sauver Pétain, Maître Isorni feint de croire que le maréchal a été agacé par ses éloges. On comprenait que la répression, ce n'était pas plus Laval que Pétain. Il est 17h45, le président se hâte de clore l'audience. Demain après-midi, réquisitoire. Samedi 11 août à 13h30 précise. C'est la grande cohue, par une chaleur étouffante. Tous les regards sont braqués sur le procureur général. C'est le héros du jour.
Avant de donner la parole au ministère public, je tiens à rappeler que compte tenu des incidents fâcheux d'hier, je réprimerai avec la dernière rigueur toute manifestation qui pourrait se produire à nouveau. Monsieur le procureur général, vous avez la parole.
Messieurs, pendant 4 années, à l'heure actuelle encore, la France est victime d'une équivoque, la plus redoutable qui puisse jeter le trouble dans les esprits, celle qui, à la faveur d'un nom illustre, sert de paravent à la trahison. Oh, messieurs, je sais quel mot je viens de prononcer. Un mot dont le rapprochement avec l'homme qui est ici sonne péniblement, je vous assure, aux oreilles de ceux qui savent et dont les illusions se sont dissipées, qui par contre provoque l'incrédulité, l'étonnement, l'indignation même chez ceux qui ne savent pas et dont les illusions persistent. Ce sont ceux-là qu'il importe de convaincre, ceux qui, de bonne foi, doutent encore. Aussi bien, après la satisfaction donnée à la conscience nationale, est-ce le but principal de ce procès ? Celui que, pour ma part, je m'efforcerai d'atteindre. Et par là même, c'est vous dire que c'est sans passion, m'imposant à moi-même un frein, toutes les fois que les mots risqueraient de traduire trop exactement les sentiments que j'éprouve, objectivement, que j'envisage ici la tâche que je me suis assignée. Et d'abord, messieurs, définissons de quel genre de trahison il s'agit ici. Loin de moi la pensée d'assimiler les faits reprochés au maréchal à ses marchés brutalement cyniques où délibérément on vend sa patrie pour satisfaire une rancune ou un intérêt inavouable. Mais, comme eût dit La Rochefoucauld, la trahison joue toutes sortes de personnages, même celui de serviteur loyal et désintéressé de son pays.
Si l'on suit la pensée du magistrat, il y a trois formes de politique qu'une nation ne peut pardonner. Celle qui consiste à empêcher la nation de se relever de sa défaite, celle qui consiste à asservir la nation à son vainqueur, celle qui consiste, sous le couvert d'une neutralité hypocrite, à apporter à l'ennemi une aide à peine camouflée.
Une nation ne peut pardonner ce qui la déshonore. Eh bien, ce sont ces trois ordres de grief que l'accusation reproche aujourd'hui au maréchal. Ces griefs reposent sur des faits dont je puis dire que l'information avait à peine à vous apporter la preuve, car c'est de l'histoire contemporaine encore présente à l'esprit de tous. Ce que, par contre, l'accusation vous doit, c'est d'expliquer comment, à son âge, avec son passé, l'homme qui est ici a pu se laisser aller à jouer dans le drame dont la délivrance était l'enjeu, le rôle qui l'a amené jusqu'à cette audience. Ce qu'il vous faut exposer, ce sont les mobiles auxquels a obéi cet homme.
De Pétain, le procureur va tracer le portrait d'un ambitieux vieillard, jaloux de son pouvoir et de son autorité, ennemi de la République.
Deux mobiles, vous disent à eux. Ayant déterminé Pétain, d'abord, la vanité du pouvoir pour le pouvoir, assortie d'un instinct autoritaire. Et pour vous en apporter la preuve, je n'ai que l'embarras du choix dans les multiples déclarations du maréchal et dans les documents émanant de lui.
Serrant un peu plus les faits, le procureur reconnaît qu'il n'a pas pu apporter la preuve d'un complot. Mais il constate que depuis 1934, tous ceux qui sympathisent avec le régime hitlérien misaient sur Pétain.
Pour des raisons d'ordre purement politique, le maréchal Pétain, en pleine guerre, refuse d'apporter son concours de grand chef militaire revêtu d'une autorité discutée. Il refuse d'apporter au gouvernement Daladier son concours et il refuse de faire don de sa personne à la France en guerre.
Le procureur poursuit en reprenant l'historique des événements à la suite desquels Pétain devint chef du gouvernement et demanda l'armistice après avoir refusé de partir en Afrique du Nord. C'est lui qui empêche notre flotte invaincue de poursuivre la guerre avec les Alliés. Arrive le 10 juillet et Laval qui fait voter les pleins pouvoirs au maréchal.
Il faut en finir avec ce slogan « Pétain, premier résistant de France ». Pétain, dont l'action se conjuguait avec celle du général de Gaulle, ce de Gaulle, qu'il fait condamner à mort par le tribunal, ce de Gaulle, qu'il traite de criminel. Faut-il rappeler aussi que 10 jours avant la terrible déclaration de Laval, je souhaite la victoire de l'Allemagne. Le maréchal disait aux Français, nous marchons, monsieur Laval et moi, la main dans la main. Faut-il rappeler la lettre de Pétain au misérable colonel Labonne, celui qui commandait la Légion tricolore avec un brassard allemand. Que dit le maréchal de France, chef de l'État, à Labonne ? Vous détenez une partie de notre honneur. C'est votre pays que vous protégez en sauvant également l'espoir d'une Europe réconciliée. Si ce n'est là, messieurs, souhaitez la victoire de l'Allemagne, c'est le sens des mots qui m'échappe.
Après avoir parlé des prétendues négociations entre l'Angleterre et Vichy, le premier président suspend l'audience qui reprend 1 heure plus tard. Le procureur va expliquer cette collaboration qui consistait à céder, céder encore, céder toujours. Pétain a humilié la France devant le monde en copiant avec servilité le système nazi. Attentif d'un bout à l'autre, le maréchal. Visiblement, il entend. On le voit s'agiter un peu. Il prend ses gants, les triture et les repose. Parfois, il remue la tête. Par instants, son visage blanc rosit. La salle d'audience est figée dans un profond silence.
Le gouvernement de Pétain, né de la défaite et d'un abus de confiance, n'a pu se maintenir pendant 4 années qu'en acceptant l'aide, le soutien de la force allemande, en mettant sa politique au service de la politique allemande, en collaborant dans tous les domaines avec la politique d'Hitler. Cela, messieurs, c'est la trahison. La trahison qui s'est manifestée sous 3 formes. On vous a dit que s'il n'en avait pas été ainsi, la situation des Français eût été pire. Je crois qu'elle a été meilleure en Belgique qu'elle n'a été en France. En France, 150 000 otages fusillés, 750 000 ouvriers mobilisés pour aller travailler en Allemagne, notre flotte détruite, la déportation à l'ombre de la collaboration, 110 000 déportés politiques, 120 000 déportés raciaux, sur lesquels savez-vous combien sont rentrés à l'heure actuelle ? 1500 sur 120 000. Je me demande, en vérité, comment la situation des Français eût été pire. Mais il y a quelque chose de pire. Et je vais vous le dire. Le pire, c'est que pendant 4 ans, cette politique, aux yeux de l'étranger, a failli nous déshonorer. Pendant 4 ans, cette politique a jeté le doute sur la France, sur la fidélité de ses engagements, sur sa parole, sur son honneur. On a failli faire perdre à la France sa raison de vivre, en lui enlevant son honneur. Cela, c'est le crime inexpiable auquel il n'est nulle atténuation ni excuse contre lequel une cour de justice chargée d'appliquer la loi ne peut qu'appliquer une peine la plus haute qui soit inscrite dans l'échelle des châtiments. La loi française, messieurs, ne contient aucune disposition qui, à raison de l'âge, permette de substituer à cette peine la plus haute qui existe dans nos lois, une peine équivalente, assortie des mêmes déchéances. Me plaçant, moi, sur le terrain de la loi, le seul sur lequel je puisse me placer, bravant les menaces de mort qui m'arrivent, comme les injures d'une minorité que sa haine ou sa foi aveugle encore, songeant à tout le mal qu'a fait à la France. Cette France dont Michelet a dit que son agonie serait l'agonie de l'Europe, cette France à laquelle il semble que parfois l'on conteste encore le droit de reprendre la place qu'elle a occupée et qu'elle doit occuper encore. Songeant à tout le mal qu'a fait, qu'on fait à cette France un nom et l'homme qui le porte avec tout le lustre qui s'y attachait, parlant sans passion. Ce sont les réquisitions les plus graves que je formule au terme d'une trop longue carrière. Arrivé, moi aussi, au déclin de ma vie. Non sans une émotion profonde, mais avec la conscience d'accomplir ici un rigoureux devoir. C'est la peine de mort que je demande à la haute cour de justice de prononcer contre celui qui fut le maréchal Pétain.
C'était Le procès Pétain, extrait choisi par Dominique Missica, 13e émission.
Le président Mongibaud, Gabriel Ledoz. Le procureur général Mornay, Jean Bollery. Pétain, Roger Dumas. Le bâtonnier païen, Philippe Le Denbach. Général de la Nurien, François Lalande. Juré Germinal, Loïc Pichon. Narration, Hélène Le Sœur.
Bruitage, Sophie Bissens. Assistance technique et montage, Clotilde Thomas. Prise de son et mixage, Olivier Dupré. Assistant à la réalisation, Benjamin Hu. Réalisation, Étienne Vallès.